Allez, on revient alors.
Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit.
Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et ben, je suis pas venu aujourd'hui.
Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir.
Cheville, d'Archeville, d'Archeville.
Et but d'Archeville.
Attention à cette remise. Regardez, la but exceptionnelle de Balabala.
Lorient pleure face au Paris Saint-Germain.
Le but de Lorient de Kevin Monnet-Paquet.
Pour le football club de Lorient, par Wesley.
C'est avec de Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation dans le long.
Face à Mamadou Sekko.
Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du KO. Gamero. Lorient met 3 buts à 2.
Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Mathilde Weiss. Le voilà, le ballon derrière Mathilde Weiss face à Tchernic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Vuemba qui permet à Lorient.
Le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance.
Et Lorient qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface. Frappe de Bozog et deuxième but.
On sort avec Ponceau, Claude Maurice, à droite,
il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi,
deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la taverne après deux matchs, deux derbys, des résultats mitigés, certains diront deux semaines, derby fig, biraisin. Oui, elle était totalement préparée celle-là. Le FC Lorient s'est donc incliné face au FC Nantes à domicile 1-0 avant d'aller s'imposer pour la quatrième fois consécutive face au Stade Rennais, au Stade de la Route de Lorient. Ils ont rebaptisé le stade d'ailleurs, Stade de la Route de Lorient. Pour débriefer ces deux derbies, nous pouvons compter sur l'équipe presque au complet avec Lucas. Salut.
Salut les gars.
Il a démarabouté le Truskel, le repère des merlus de Paris. Raphaël Lecor est avec nous. Alors, ça fait quoi de gagner au bar?
Ça fait du bien. Salut à tout le monde.
Et Pierrot était en tribune contre Nantes. Il a vu une défaite. Salut mon Pierrot.
Salut.
T'étais pas à Rennes, hein, sauf erreur.
Non.
Continue à ne pas aller au match, du coup. Raph, je vais commencer par toi. On commence par le match de Rennes, évidemment. Quatrième victoire contre le Stade Rennais. C'est peut-être de ces deux matchs des derbies, là, c'est peut-être la victoire qu'on attendait le moins.
Ouais, clairement, c'est pas, tu vas pas au Roazhon Park en te disant que du coup, tu vas voir le FCL gagner. Moi, je trouve qu'on a fait un match quand même honnête face à une équipe de Rennes qui manquait peut-être un petit peu de jus et qui a manqué surtout d'à propos devant nos cages. Je pense qu'on a saisi le peu d'opportunités qu'on avait. On a bien bonifié, je trouve, une bonne tenue sur l'ensemble des enjeux, à la fois défensifs et offensifs. Donc non, une victoire qui n'est pas forcément méritée, mais qui s'est dessinée en seconde période. Donc non, content, parce que ça fait quand même une grosse différence au classement. Et ça gomme un match face à Nantes qui était vraiment pas terrible, on y reviendra dans quelques minutes.
Et oui, puisque l'information, c'est que le FC Lorient fait un bon classement, se retrouve 13e avec 25 points, alors seulement 2 points d'avance sur Montpellier qui est le barragiste. Lucas, ce petit bouffée d'air frais fait du bien en perspective de la course au maintien.
Ouais, clairement. Et face à un adversaire qui était vraiment en forme ces derniers temps, je pense que le match à Nantes a vraiment coupé cet allant, ce début d'année qui est très très réussi. Ça a peut-être mis quelques doutes dans les têtes. Et là, finalement, la semaine d'après, on sort un match comme ça, un match très solide, parce qu'on va en parler. Mais même si on a été dominé, au final, on a concédé très peu d'occasions. Donc vraiment une structure défensive cohérente. On a su défendre en bloc et ne pas, finalement, comme en début de saison, subir. Mais en même temps que subir énormément de tirs, finalement être un peu... ne pas être acteur de ce match. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je pense que, ouais, mentalement, et en plus on continue c'est la quatrième victoire face à Rennes sur les deux dernières années. Et finalement... le jeu des bêtes noires, je vais finir par y croire. En fait.
Pierrot, c'est toi le superstitieux de la bande. C'est bon, tu penses qu'on a marabouté le Stade Rennais?
Bah, c'est un beau commencement. Hein. Ça faisait depuis la dernière victoire avant les quatre à la suite, c'était 2016. Et t'as pas gagné là-bas depuis. Enfin, avant l'année dernière, t'as pas gagné là-bas depuis 10 ans. Donc, en fait, une deux fois de suite d'affilée chez eux.
La dernière vendredis. Chez eux, c'était Alain Traoré, les coups francs, tout ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc, tu vois, ça commence à remonter pas mal. Donc, c'est plutôt positif. Après, tu vois, au jeu des superstitions, Nantes, c'est toujours l'équipe auquel on flop à chaque fois. Mais ce qui loupe pas.
Revenons sur ce match du Stade Rennais, si tu veux bien, Raph. On va commencer par évidemment la première mi-temps. Et j'ai envie de citer Tiemwe Bakayoko à la mi-temps au micro d'Amazon, de Canal, pardon. Ah oui, c'était sur Canal, c'était horrible la retransmission sur Canal. Avec.
Je suis content que Cahuzac ouvre un truc de paddle à Arras.
Ça, c'était ouais. L'information cruciale de Talaron, justement. Et Talaron qui était tellement pour Red. Tu vois, bon, on n'est pas forcément très objectif, hein, mais. Sur le but de Lorient, t'entends Talaron qui fait « Oh là là !» Hey, mon gars, mais...
Ils sont chez eux, de toute façon. Ils font ce qu'ils veulent.
Fait semblant. Sur le pénalty potentiel par Julien Laporte, on aura l'occasion d'en revenir. Landreau qui se perd en conjecture pour expliquer que oui, mais le règlement dit que non, mais bon, peut-être que oui. Enfin, ouais, c'était assez catastrophique. Canal, ils n'en ont plus rien à cirer du foot, visiblement. C'était n'importe quoi. Donc Tiemwe Bakayoko au micro de Canal qui explique ouais non ça va on gère ils sont pas dangereux. Alors on s'est un peu foutu de sa gueule à ce moment là mais finalement il avait pas si tort que ça Raph.
Ouais bah en fait ce que je disais tout à l'heure c'est qu'ils ils ont le ballon, il y a quelques mouvements mais ça manque de tranchant devant, enfin, on voit pas Vogo à deux doigts de craquer ou on sent pas une tenue du ballon qui est très oppressante pour l'arrière-garde lorientaise. Donc franchement, je peux comprendre qu'il ait cette sensation-là, d'autant plus qu'il avait un rôle un peu de sentinelle devant la défense à 3, puisqu'en fait, Abergel était un tout petit peu plus haut qu'à l'accoutumée, puisqu'il avait plus cette fonction-là quand Louza était à ses côtés. Et donc du coup, il y avait vraiment un 3 défenseurs centraux, Bakayoko en sentinelle et trois milieux de terrain qui permutaient pas mal entre Carry, Abergel et Ponceau qui décrochaient souvent etc pour aller faire le surnombre. Donc moi j'ai trouvé que le match de Bakayoko sans être stratosphérique était honnête, mais ouais je pense que du coup il a dû le sentir une équipe de Rennes pas forcément au taquet, peut-être un peu émoussée du match d'Europa League et en manquant peut-être un peu d'idées face à un bloc bien recroquevillé derrière comme le disait Lucas.
Mais pour autant Lucas justement on n'est pas dangereux, il y a zéro frappe cadrée en première mi-temps. À ce moment-là, comment t'expliques ça? Est-ce que Lorient, pour utiliser les clichés, je mets le bus, joue bloc bas et perd des contres, ou est-ce que tu vois autre chose?
Non, je pense qu'on s'est peut-être un peu précipité en contre. Je trouve que les 5-10 premières minutes, on est un peu mieux que sur le reste de la première mi-temps. Je nous voyais finalement ne pas paniquer face au pressing rennais. Et être plutôt à l'aise, même si tu es dans notre surface, dans notre moitié de terrain plutôt. Et après, petit à petit, on a reculé. Et finalement, on s'est un peu satisfait du fait que Rennes ne soit pas dangereux. Parce que finalement, on ne ressent pas. Donc, à la mi-temps, certes, les joueurs, je pense, sont un peu émoussés. Mais on ne sent pas une énorme fatigue parce que Rennes est assez statique, une position assez terrible. Ils ne nous font pas énormément courir. Et donc, finalement. Pas une obligation de réagir très forte. Et je pense que c'était peut-être un plan en première mi-temps, même si voilà, ils auraient peut-être voulu des meilleures transitions. Et on va voir qu'en seconde période, beaucoup plus de tranchants, même si on n'a pas eu 15 transitions, mais toutes tranchantes et toutes ont amené des occasions assez dangereuses finalement.
Alors, j'ai une petite stat par rapport à ça, c'est que bah, Rennes a tiré 22 fois au but, ce qui peut paraître assez gros. Seulement 6 tirs cadrés, donc ça c'est autant que nous finalement. Mais par contre, si on prend les expected goals, donc en gros un peu la dangerosité des frappes Du coup, ils font 1,39 contre 1,97 pour Lorient. Donc, ce qui justifie un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que des opportunités certes, mais très peu dangereuses. Donc, plutôt serein là-dessus.
J'avais pas allumé mon micro, excusez-moi. Ce que je retiens de cette première mi-temps, c'est beaucoup de déchets techniques aussi. Il y a beaucoup de situations de transition qui sont très mal exploitées parce que les passes à 3 mètres ne sont pas réussies, parce que passes trop longues, trop courtes, et on rate quand même pas mal de situations, disons d'amorces de situations de contre qui auraient pu être très tranchantes vu les joueurs qu'il y a devant. Est-ce que vous l'avez vu ça aussi, vous ? Raph, je te vois opiner du chef.
Ouais, bien sûr. De toute façon, Lorient, dans cette configuration-là, essaie toujours de faire quelque chose. C'est bien de ressortir le ballon et assez proprement. On a assez peu utilisé le jeu long. D'ailleurs, quand on l'a utilisé, il n'a pas été forcément très, 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 très cohérent et précis. Globalement, dans tous les compartiments de jeu, dans la transmission, on a été moins efficace que Rennes. Passe court, passe longue, transversale, etc. On a un taux de complétion qui est plus faible. Donc ça vient un peu de justifier ce que tu viens de dire aussi. C'est-à-dire que la qualité technique aussi... moi, j'ai trouvé qu'on était vraiment un demi-ton en dessous techniquement. Beaucoup de contrôle où on voit que ça amorce pas bien. Il n'y a pas le bon contrôle qui amène le mouvement. Enfin, c'est plus long, c'est plus lent. Et du coup, Rennes arrive sur le porteur beaucoup plus facilement. Et puis, plusieurs pertes de balles qui ne nous permettent pas d'exploiter aussi les espaces que laisse Rennes. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et ça se ressent aussi dans le pourcentage de passes complétées, le nombre de ballons perdus sur certains joueurs, etc. etc.
Ouais. Et puis, on est à la mi-temps, 0-0. Pierrot, tu crois, toi, à une victoire possible à ce moment-là où tu te dis... On va se faire massacrer.
Se faire massacrer, non, parce que vu de la première mi-temps et le fait qu'ils n'ont pas été hyper dangereux, j'étais confiant sur les assises défensives, on va dire. Après, de là gagner le match non plus. Mais moi, la mi-temps, le match est nul, je m'en satisfaisais. Mais c'était pas non plus dans le jeu. Comme on dirait dans le football, on a su faire le dos rond.
Ouais, et puis on défend bien, je trouve. Surtout, on est assez agressif. De la tête aussi, on est présent. Enfin, on a trois défenseurs centraux qui sont assez, assez costauds sur le match dans l'ensemble.
Ouais, et puis après, tu regardes quand tu repars en début de deuxième, il y avait... On a tout de suite remis un peu de gaz, je trouve. On les a un peu plus inquiétés. Le seul moment où j'ai été inquiété par Rennes, c'est quand on met les 2-0, on a pris un but. Sur les 3-4 minutes de la fin, où là, j'ai vraiment été inquiet. Mais sinon, sur le reste du match...
À demain, j'étais pas fier. Je me suis dit, on va se faire remonter 2-0 en 4 minutes, ça va être une catastrophe. Mais bon, Marc, pour être à 2-1, il a fallu ouvrir le score, Lucas, et la lumière est venue. J'allais dire de Ponceau, tu vois, c'est un peu un abus de langage. Il est venu de Mobamba, 6e but en 6 matchs. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais ça démarre d'une frappe de Ponceau. Alors, Mandanda fait un peu n'importe quoi là-dessus. Mais voilà, Ponceau qui, petit à petit, s'affirme de plus en plus et qui prend plus de risques offensifs et ça paye.
Ouais, clairement. Autant je trouve qu'en première mi-temps, il est l'un des joueurs du 11 qui fait le plus mauvais match, enfin, qui était vraiment dans le rouge techniquement. Après, défensivement et dans les déplacements, c'était autre chose. Il perd vraiment des ballons importants, il fait les mauvais choix. Et autant sa seconde mi-temps, il prend vraiment une autre dimension et on le retrouve le Ponceau qu'on voit depuis 2024. Donc, ouais, franchement, c'est ce qu'on voit de Ponceau depuis début d'année. C'est des choses qu'on n'espérait pas de lui, mais il a trouvé énormément en verticalité, que ce soit dans ses passes et dans ses courses. Beaucoup plus de créativité, là où avant, il avait plus tendance à jouer la sécurité et jouer beaucoup plus avec de la sécurité, comme je viens de le dire. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, voilà, on sent qu'il a vraiment pris ce rôle de numéro 10. Là où avant, on se demandait quel était son vrai poste, il était un peu basculé un peu partout. Là, le fait qu'il n'ait pas de consignes très précises sur son placement, c'est intéressant. Et du coup, ouais, ça, c'est pas le premier but où il frappe et finalement il y a, ça amène un but derrière parce que sa frappe est un peu trop molle.
Ouais, c'est ça que j'aime bien chez Ponceau cette année, c'est que vas-y, il a une occasion de frapper, il frappe. C'est des choses qu'on voyait pas avant parce qu'au final, c'est tout con, mais c'est longtemps qu'on dit que vas-y, il frappe, on voit ce que ça fait derrière. Et tu vois, contre Metz, elle est repoussée, ça fait but derrière. Ouais, avant-hier, c'est pareil. Donc c'est ça que j'aime bien de manière globale quand un joueur va tirer, c'est son occasion et Ponceau le fait plutôt bien et en plus même sa frappe franchement oh, elle était dedans, elle aurait été magnifique. Hein.
Alors attention, c'est une question volontairement provocatrice, mais est-ce que Ponceau ce serait pas un des meilleurs joueurs cette saison là, Raph?
Non. Non, non. Meilleur joueur, non.
Là, il a dit le meilleur, j'ai un des meilleurs.
Non, je trouve que dans ce, comme l'a dit Pierrot, dans ce rôle derrière l'attaquant, je trouve qu'il a réussi à trouver sa place, en fait. Ça lui va plutôt bien. Il est à la fois acteur dans le pressing, acteur dans la construction, il apporte de la verticalité, comme le disait Lucas. Là où il fait la différence sur ce match versus les autres, c'est que du coup, il est un peu plus propre dans ce qu'il a pu proposer, un peu moins de perte de balles, etc. Il fait deux passes clés, je crois, du coup, plutôt propre à la passe également et dans les transmissions.
Surtout là où on l'a.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai surtout vu aussi beaucoup perdre de duels ou faire les mauvais choix aussi, pourtant avoir des. Tenir le ballon devant, mais pas savoir forcément l'exploiter tout le temps. C'est souvent ça son péché mignon. Je trouve, en tout cas, là, je l'ai senti un petit peu plus à l'aise. Et c'est vrai que cette saison, et Lucas le disait, on l'a plus fréquemment vu tenter des gestes un petit peu techniques, des gestes en première intention, tu vois, des passes dans le dos, des passes aveugles, des transmissions un peu plus rapides, comme s'il gambergeait moins et qu'il se laissait aller, en fait. Donc ça c'est plutôt positif. Et du coup, bah, la frappe, elle est un peu dans cette même logique, c'est-à-dire... Bon, bah, elle vient parce que j'ai envie de la tenter. Et puis, bah, en fait, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un registre de joueurs avec Bamba qui est bah, le renard des surfaces qui est là pour reprendre un ballon relâché. C'est le deuxième qu'un gardien relâche et que Bamba récupère pour marquer. C'est ce que je disais un petit peu là sur Twitter en début de semaine. C'est quand même... Deux buts marqués face à des gardiens qui relâchent des ballons, c'est 4 buts dans les 5,50, c'est 3 buts de la tête, et quasiment toutes ces frappes à l'intérieur de la surface, à part une. Et je crois que le début de l'action, je crois que c'est une frappe suite à une passe en profondeur qui est donnée à Bamba, qui frappe croisée, le ballon revient, Ponceau. En roule et il est là dans la surface pour repousser, donc ça part aussi de Bamba, hein, l'action avec une frappe un peu assez sèche du coup qui oblige un double arrêt de Mandanda, donc et elle est pas mal déjà cette frappe là, elle est soudaine, elle est prompte, donc non, c'est costaud aujourd'hui, même si je trouve que sur les 2-3 derniers matchs, et désolé je change de sujet, on était sur Ponceau mais je pars sur Bamba,
je trouve
dans le jeu un peu moins influent que ses premiers matchs, mais il est là, encore une fois. C'est-à-dire qu'il lui faut une demi-occasion, il la met.
Dans et c'est ce
qu'on demande aussi. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, tu le vois pas, et puis bah, finalement, c'est lui qui tue c'est l'équipe de Rennes, en fait.
C'est ce qu'on demande principalement à un neuf, hein, généralement.
Exactement. Exactement. Et c'est vrai qu'on a souvent loué certaines capacités de neuf à Lorient de participer au jeu, etc., et pas d'être tueur devant. Bah lui, c'est l'inverse, quoi. C'est vrai que tu le vois pas forcément apporter du liant tant que ça sur 90 minutes, mais quand il est devant les cages, bah, c'est souvent cadré et ça finit souvent au fond, quoi.
Oui, parce que les conduites de balle, c'est pas trop son point fort. Hein. Sur le peu qu'on a vu, il est meilleur à tirer un pigeon devant le but.
Clair. Mais regardez le placement, hein. Franchement, il le sent que Mandanda il peut relâcher le ballon. Il est là. Il est vraiment là, quoi. Il met la pression. C'est un jeu de position qui est hyper important. Et c'est pareil, je sais plus face à qui c'était. C'était Strasbourg où il est vraiment à la retombée. Le gardien la lâche. Il est là, quoi. Et donc franchement, on sent qu'il a ce sens du but, quoi.
puis voilà, je répète la stat, 6 matchs en 6 buts, c'est le game changer dans cette deuxième partie de saison. C'est incroyable, souhaitons-lui de continuer comme ça. Ce match contre Rennes a été aussi l'objet d'un choix fort de la part de Théo Lebrise.
De Régis Lebrise.
On reviendra, on parlera de Théo tout à l'heure. De Régis Lebrise, c'est la titularisation, Lucas, de Thiemwe Bakayoko en lieu et place de Louza, auteur d'un match qu'on peut qualifier de cataclysmique contre Nantes.
Oui, totalement. C'est vrai qu'on s'était habitué à des standards assez forts. Il y a même eu des comparaisons à Enzo Lefebvre. Mais bon. Et,
ouais, mais bah, il fait une match comme Enzo.
Du coup, ouais, Bakayoko. Moi, sur sa performance à Bakayoko, je suis assez mitigé. Alors, à la fois, quand. Bah, le fait que Rennes soit très statique, comme on l'a expliqué, il a récupéré quelques ballons. Et il s'est un peu démarqué là-dessus. Et finalement, dès que ça accélère et dès qu'il y a des transitions vers notre camp, voilà. Enfin, dès qu'il y a de la vitesse, il va être en difficulté parce que physiquement, on sent que bah, le fait qu'il paye encore ses saisons passées, il paye encore ses blessures de cette saison, la prépa, etc. Donc physiquement, je pense que cette saison, il ne sera jamais au top. Et je ne sais pas s'il reviendra au top. Donc ça pêche vraiment. Après, voilà, je pense qu'on avait peut-être besoin d'un joueur plus travailleur défensivement. Et je trouve ça intéressant que Régis réagisse directement. Et que finalement, Louza, même s'il a fait un très très bon mois, après une grosse contre-performance, il ait sa place de titulaire indiscutable. Non, il sort directement. On fait jouer la concurrence. On montre que tout le monde est concerné. Et ça, ouais, je trouve que c'est un choix fort et qui a été payant.
Mais en fait, c'est pas Bakayoko qui remplace Louza. C'est Abergel qui remplace Louza et c'est Bakayoko qui remplace Abergel. Parce que globalement, non mais c'est important.
Oh
là
là.
Mais va sur it, ouais. Si c'est pour raconter ça. Le premier podcast sur le FC Lorient, si vous avez vous en.
Non mais concrètement, enfin, il faut aussi voir ce que Bakayoko a pondu sur le match. Et on lui a demandé juste d'être stabilisateur au milieu. Il perd très peu de ballons, 6 ballons perdus. Sur la qualité à la passe et à la transmission, c'était propre, très peu de ballons perdus, 5 interceptions. Enfin, globalement, voilà, il était là pour être un point d'ancrage défensif en plus de la ligne de 5. Et ça a permis, voilà, comme je disais tout à l'heure, à Bergel d'avoir un tout autre registre et finalement de prendre le rôle de Louza qui n'était pas là. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Même si ça n'a pas forcément super bien fonctionné en première période, j'ai trouvé la liberté assez intéressante des trois milieux là, qui essayaient de se défaire un petit peu des différents marquages que proposait Rennes. Donc, bon, en fait, je pense que c'était compliqué de toute manière pour lui d'avoir plus de liberté. S'il dézonnait pour aller plus haut, en fait, ça déséquilibrait aussi le bloc et l'équipe. Puisque si tu regardes véritablement les positions moyennes des quatre milieux de terrain, Bakayoko est vraiment 5 à 10 mètres derrière. Hein, donc, je pense qu'il avait vraiment ces consignes-là. Après, je suis d'accord avec Lucas quand même. On n'est pas face à un joueur qui aujourd'hui respire la volonté de se projeter vers l'avant et de prendre des risques là-dessus. J'ai l'impression qu'il a envie de lui-même se refaire confiance sur certains aspects. C'est souvent à gauche, à droite, passe on va dire latérale et récupération basse, quoi. Voilà. Donc ouais. Monsieur propre.
Après, ceci dit, c'est lui qui casse la ligne sur le premier but, hein.
Ouais, tout à fait. Non mais bien sûr. Okay. Enfin, il a cette qualité là, on le sait, mais c'est vrai que non, mais je rejoins Lucas sur le fait que il crève pas l'écran, quoi. Quand tu le vois, c'est pas le mec qui va te faire deux crochets, faire une grosse course et faire une transversale pour le. Voilà.
Tu sens qu'il reste dans sa zone de confort, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je voulais vous parler, on fait un peu un passage de certains joueurs qu'on a trouvé marquants sur ce match. Un joueur qui a été cataclysmique pendant 45 minutes avant de se reprendre, c'est notre piston droit grec, Katseris. Ça a été une première mi-temps, puis c'était affreux. Il n'y avait pas un contrôle réussi. Enfin, c'était peut-être une des pires prestations au poste de latéral droit dont j'ai souvenir. Ouais, c'est l'horreur. Franchement,
première mi-temps, c'était un joueur de série B italienne.
Ouais, c'était 4 séries B, tout de suite. Et bon, deuxième mi-temps, ça allait mieux. Mais la première mi-temps, elle est mais zéro, quoi.
Bon, après il masque... tu sens que c'est un joueur à la technique, c'est pas encore trop ça, mais il masque ça par sa volonté sur le terrain. Donc,
ça y quoi.
Ça compense, on va dire, mais... ouais, c'est vrai que...
Ah, beaucoup de déchets, ouais.
Beaucoup ouais. de déchets, mais même pas que sur ce match à Rennes, hein, globalement.
Ouais, ouais, globalement. Ouais.
Il a beaucoup de déchets, mais le fait qu'il se la donne à fond, je lui pardonne.
Un autre joueur dont il nous faut parler, Montata, lui, donc, est out. Alors, j'allais dire jusqu'à la fin de la saison. Disons qu'il reviendra peut-être quand il restera 2-3 matchs, selon les prévisions. Julien Laporte assure le remplacement et finalement il le fait plutôt bien, même si en première mi-temps il aurait pu causer un pénalty. Lucas, t'as pensé quoi de la prestation de Julien Laporte?
Plutôt confiant. Enfin, il reprend confiance. Il y a quelques interventions où je trouve quand même qu'il dégage un peu comme il peut. Un peu en première intention instinctivement, là où il pourrait avoir un peu plus de sérénité et poser le jeu, mais voilà, je pense que c'est un processus aussi. Il revient de loin, comme il n'a pas vécu la même période en fait que l'ensemble du groupe qui était titulaire, qui s'est remis en confiance en juin. Lui, il arrive à un moment où finalement il faut qu'il soit prêt directement. Il a une grosse pression parce qu'il remplace Talbi qui ouais, stabilisait toute cette défense. Parce que voilà,
il sort de quelques matchs cataclysmiques quoi aussi. À un moment où il remplace Talbi, il est sur le banc parce qu'il avait été
C'est ça. Et puis finalement, on a retrouvé une défense cohérente parce que Talbi, je pense, il a tellement un apport énorme qu'il met Adjei et Touré en confiance et il les bonifie. Donc là, il y a un travail à faire. Et il le fait plutôt bien. J'attends de voir face à des grosses oppositions. Et les oppositions, on va vraiment être mis en difficulté sur 90 minutes, même si c'était le cas face à Rennes, hein, mais voilà, avec un peu plus d'intensité. Mais voilà, c'est positif, parce qu'on était assez inquiets.
Bah, de toute façon, cette défense à 3, on sait qu'elle a une grosse faiblesse, c'est quand elle est prise de vitesse. Hein. Les 3 sont pas forcément très véloces. Laporte, c'est pas sa qualité première. Touré, c'est la charrette. Adjei n'est pas forcément très rapide non plus. On l'a vu d'ailleurs face à Nantes. Il y a 2-3... assez difficile de gérer la profondeur pour ces 3 joueurs, je trouve. Donc là, on était plutôt bas, on attendait. Je trouvais assez en place. Et puis, sept dégagements, en effet, pour Laporte, c'est autant que les deux autres défenseurs centraux. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, la sensation que tu avais, Lucas, dégagé en première intention. Mais c'est aussi ça qu'on demande, c'est faire le vide, hein, dégager au max la surface. Et moi, j'ai trouvé assez bon aussi de la tête. Mais c'est vrai que le match aurait pu basculer avec cette petite menotte dans la surface, mais voilà, règlement appliqué.
C'est surtout ça.
Oui. Voilà. Donc non, franchement, c'est honnête, et puis tu le vois célébrer avec grande joie du coup la victoire avec une jolie photo avec Abergel. Donc voilà, tu sens que c'est par ces victoires là et ce genre de match que tu reprends confiance aussi.
Un mot sur Ayman Kari, j'arrive pas. Vous allez pouvoir m'aider. J'arrive pas à savoir s'il a fait un bon match ou un mauvais match. Je suis un peu perdu. Qui veut se lancer?
Je suis exactement comme toi. Vous attendez l'avis de Raph et Lucas.
Moi, je trouve que du coup, il fait exactement le même match que Ponceau. Pareil.
Okay.
C'est-à-dire que assez propre devant, très peu de pertes de balles, sobre, une passe clé, 93% à la passe, c'est assez bon hein, quand tu joues aussi haut. Peut-être moins en vue offensivement, parce que Ponceau fait une frappe qui amène le but, donc du coup il est crédité de cette action-là, on en a parlé il y a quelques instants. Mais non, moi je trouve que c'était pas mal. présent aussi dans le pressing, même si c'est pas forcément l'abattage défensif qui le caractérise le plus. Ça a manqué d'un petit supplément, voilà, un petit supplément d'âme du coup d'un point de vue offensif, mais belle activité tout de même, quelques dribbles, etc. Donc moi je le mettrais un quart de tour en dessous de Ponceau, mais pas non plus très très loin des débats.
Lucas.
Moi j'analyse quand je compare les deux, je trouve que Ponceau a été décisif plutôt dans la moitié de terrain rennaise, donc en phase offensive, et Carry il a été très important, je trouve, sur le départ des transitions en seconde mi-temps. Enfin, j'ai ça en tête que ça a souvent été le moteur du lancement des transitions offensives, parce qu'il fait la différence dans les petits espaces, parce qu'il trouve la bonne passe, parce que il sait résister à la pression et qui sait jouer vers l'avant, qu'il ose jouer vers l'avant. Donc, et là où Ponceau a pris plus de recul sur les transitions offensives pour trouver les passes intéressantes. Donc vraiment une certaine complémentarité. Après, c'est vrai que par rapport au début d'année 2024, où il démarre en trombe, notamment offensivement, bah c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim parce qu'il est un peu plus en recul. Mais finalement, voilà, il a trouvé sa place. Mais on peut quand même, je pense, attendre plus de lui, qu'il prenne plus de responsabilités, parce que je pense qu'il a vraiment des qualités pour faire très très mal à beaucoup d'équipes.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire donc sur ce match de Rennes. Un petit mot aussi sur le poste de latéral gauche. Théo Lebrise encore une fois titularisé, mais Pierrot, c'est pas nécessairement définitif.
Non, parce qu'on était un peu à la pêche aux infos pour savoir pourquoi Youngwa ne jouait pas, et il s'avère qu'il a eu quelques problèmes physiques et une pointe, je crois aux adducteurs, il me semble. Donc par précaution il jouait pas. Donc après Théo Lebrun, ça fait plutôt le job. Donc
il peut même avoir un penalty.
Oui,
obtenir un penalty. Ouais. Il était clairement. Après, mais comme Florian Maurice est allé gueuler sur les arbitres à la mi-temps.
Ouais. Après, je sais pas si ça a eu vraiment une incidence. Je sais pas.
Peut-être. Ça laisse la place.
Je pense simplement que les arbitres en Ligue 1 sont incompétents.
Mais ça aurait été le premier pénalty pour le FC Lorient de la saison. C'est quand même assez incroyable comme statistique.
Bon. Il reste 10 matchs.
Je me demande si on va avoir un pénalty d'ici la fin de la saison.
Ce sera le but du maintien.
Est-ce que le FCL a déjà...
Je mets un billet sur le fait que si on a un pénalty, on le rate.
Qui le tire? Tiens, si on a un péno, qui le tire là, à date?
Très bonne question.
Bombo.
Ouais, je pense. Ouais.
C'est le buteur... Hein.
Je sais pas.
Hein. Je vois pas qui d'autre pourrait.
Je vois pas qui d'autre, ouais, dans l'exercice.
Ponceau peut-être.
Même pas.
Ouais, Ponceau c'est chaud. Le ballon traverse peut-être pas la ligne.
Hein. Mais je pense qu'un Carry ou un Louza.
Peut-être pas.
Ouais, Louza, ouais, peut-être.
Ouais, Louza, ouais, plutôt Louza. Finalement, en fait, avant de passer au match de Lyon qui nous attend ce week-end, un match extrêmement important. Est-ce que le grand Le 11 de Régis est plus ou moins défini là, ça va plus trop bouger. Finalement, Raph, est-ce que le grand débat, c'est pas Louza ou Bakayoko? Et sur quoi ça se décide? Est-ce que c'est en fonction de l'adversaire? Est-ce que c'est la forme du moment?
Ouais, je pense que ça se décide par rapport au plan de jeu. Là, le fait d'aligner Bakayoko face à Rennes, parce que tu sais qu'en fait, tu vas pas avoir la possession. Alors que Nantes, devant ton public, t'es censé l'avoir. Nantes n'a pas habituellement la possession. On était censé l'avoir sur ce match, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, bah, on a perdu. D'ailleurs, petite stat assez marrante. Vous prenez les 5 meilleures possessions du FC Lorient cette saison, c'est 0 points sur 15. Et vous prenez les 5 moins bonnes possessions du FC Lorient cette saison, c'est 10 points sur 15. Donc du coup, il faut ne pas avoir le ballon pour que le FC Lorient glane des points, puisque du coup, Metz s'est perdu, Nantes s'est perdu, Le Havre s'est perdu, Nantes s'est perdu, Sochaux s'est perdu, 5 défaites. Et du coup, les pires possessions qu'on a pu avoir, c'est à Lille, bon, on perd 3-0, mais par contre, c'est 3 victoires, Strasbourg, Lille, Rennes et le PSG. Donc du coup...
Ah bah du coup, ça va.
Non, mais 3-0. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu prends un point face au Paris Saint-Germain alors que tu as 22% de possession, tu gagnes 2-1 alors que tu en as 30 face à Rennes. Enfin, voilà quoi. En gros,
et du coup, c'est plutôt bon signe pour la suite, puisque je rappelle le calendrier, nous recevons Lyon avant d'aller à Monaco, recevoir Brest pour le derby, Montpellier, et bon, là, c'est Montpellier, on est déjà en avril. Donc pour ce mois de mars, pardon, on reçoit Lyon, on va à Monaco et on reçoit Brest. Lyon, c'est ce week-end. À 17h samedi, un horaire un petit peu inhabituel. Je sais pas si on a déjà joué à 17h un samedi cette saison. Ça me dit rien.
17h un samedi. Reims,
ouais. Ok.
Perdu.
Voilà. Les amoureux des stats se régaleront.
Non, mais c'est un truc de fou parce que si tu prends toutes les matchs où on a eu la possession, plus de 50%, 50% ou plus, c'est seulement 4 points gagnés. Voilà. Metz et Lyon. C'est fou, hein, quand même. C'est...
Lyon qui est 11e à 3 points du FC Lorient. En 24 victoires, nous passons devant à la différence de but. Messieurs, ce match signerait-il le maintien du FC Lorient ?
La moitié du maintien, je pense. Tu fais la moitié du chemin.
Ouais. D'accord. Ouais, tu penses ?
Ouais, parce que tu repasses devant Lyon, déjà, premier point. Ouais. T'es quasiment, je pense, 12-11e en fonction des résultats des adversaires. Et je pense que tu prends une énorme option, tu prends un matelas de sécurité sur le 17e, c'est déjà fait pratiquement. Et tu prends un matelas également sur la place de barragiste. Et derrière, il reste...
Point.
Ouh, il y a un Metz-Clermont ce week-end, je regardais les calendriers.
Ce que j'allais dire, il y a Metz-Clermont, c'est un malentendu, Metz gagne.
Ouais, je t'en regarde des calendriers en me disant que t'as Montpellier, ils vont à Nice.
Il reste 10 matchs. Hein.
Sachant qu'on va se déplacer à Montpellier où on perd
tout le temps.
Quasi jamais, jamais de
mais
points.
J'ai pas dit qu'on était maintenu, j'ai dit qu'on avait fait la moitié du chemin.
La
parce
moitié,
que... Je trouve qu'il te reste quand même des matchs, on va dire.
Il reste 10 matchs abordables.
Bah attends.
10 matchs du final, Pierrot.
Ouais, 10 matchs du final.
Ça, c'est pour normalement moi, le discours que tu tiens quand t'es à ric-rac, quoi. Bon, on est ric-rac, mais
il reste deux matchs. Il reste deux matchs où on est censé avoir un bon résultat. Donc, Toulouse à la maison, Clermont à la maison sur le dernier match.
Ah, mais je te rajoute Brest. Brest, on les éclate à domicile. J'en suis intimement convaincu. La super série de Brest.
La dernière fois que t'étais intimement convaincu des résultats, on a pris une pilule contre Marseille.
C'est tout à fait vrai. Mais là, la très très bonne série du Stade Brestois, c'est incroyable ce qu'ils vivent cette saison. Hein. On aimerait bien vivre la moitié de ça. Cette très bonne série s'arrête au Moustoir. Parce que si cette équipe a un peu d'orgueil, la nôtre, là, ils vont se faire un point d'honneur à manger des pizzas. À les écraser 1-0, tu vois. 2-1, parce qu'on ne fera jamais de clean sheet, c'est terminé. Mais non, la bonne série, ça reste. Mais oui, très peu de matchs de notre championnat, même si j'aime pas du tout cette expression. Donc ce match de Lyon face...
Mais on perd tous nos points face à notre championnat.
Ouais, c'est pour ça que ça n'a aucun sens ce terme de notre championnat. Crucial évidemment dans la course au maintien, tous les matchs le sont, mais celui-là c'est un adversaire direct, hein, même si Lyon s'en sort un petit peu mieux. J'allais vous poser la question, quel 11 on verra le même contre Rennes, un Louza ou un Darlignongo après?
C'est ça.
Le reste, ça bougera pas.
Ouais. Ah, attention, modulo l'épaule de Bamba.
Oui, il n'y a pas de nouvelles.
Il s'est pas entraîné sur ce début de semaine, hein, pour info.
Bon, bah, on
va voir.
Bamba Dieng, du coup, fait chier.
Oui,
non, attendez, je dis Bamba Dieng, il n'est pas rentré, il me semble, contre Rennes.
Non, c'est Kroupi a pris une petite option.
Mais oui, voilà, je savais que j'oubliais quelqu'un, je voulais parler de Kroupi, Lucas, t'as pas le droit d'oublier Kroupi, qui était un peu mis au frigo pour se reposer après son début de saison intense, on va dire. Et là, il revient, il rentre en jeu contre Nantes, il rentre en jeu contre Rennes et
au
Marc.
Au frigo.
Oui, au frigo, mais au frais.
Ouais.
Et pas au placard,
c'est ça.
Et au frigo.
C'est ça, il fusille Mandanda sur la seule occasion qu'il a. Et après, ouais, c'est de superbes images où on le voit célébrer à la fois sur son but, sur la période où on ne savait pas trop si c'était checké par la VAR, très heureux en fin de match aussi. Enfin, voilà, si on avait des doutes sur le fait qu'il soit contrarié de beaucoup moins jouer, on a notre réponse. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il met autant d'envie lorsqu'il rentre. Et c'est bien normal, en plus, un derby. Je pense que ça va être un but assez marquant pour lui cette saison. Je pense que ça va être le plus marquant, peut-être, sa carrière en pro avec son premier but. Donc c'est intéressant. Parce que
À Gerland. Oh, oulala.
C'était pas c'est Gerland chez nous.
Ouais, voilà, c'est Gerland. Voilà. Non, mais attends, à Lyon, il fait une masterclass. Hein.
Ouais,
t'oublies la frappe qui lâche là. Oh là là. Non, franchement, c'était soyeux. Moi, je trouve que du coup, on manque de respect face à un joueur qui a traversé le désert. C'est Gédon Kalou qui fait une super passe au cordeau pour Kroupi. La dernière passe décisive de Kalou, c'était face à Lille pour Théo Lebrise.
Il a traversé quel désert, Gédon Kalou? Il est parti à la CAN, il est revenu. Enfin, il n'est pas traversé le désert.
Non, mais
ça le seul désert qu'il a traversé, c'est le Sahara en avion pour aller à Abidjan, c'est tout. Il n'y a pas une traversée du désert pour Gédon Kalou, soyons sérieux.
En temps de jeu et en fait majeur, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Ouais, d'accord. Mais je pense qu'un Bamba Dieng est plus dans une situation compliquée. Il est derrière Kroupi, il est derrière
Bamba. Je te trouve un peu...
Derrière Kroupi, il est derrière Tozan aussi, j'ai l'impression, dans la hiérarchie. Là.
Ouais, c'est kiff-kiff, hein, entre ouais. Tozan et Dieng.
Tozan, on peut en parler deux minutes, là?
Tozan, c'est simple, c'est juste factuel. Il a pris le numéro maudit de Garbage, qui a pris le numéro de Cabo. Tout est factuel, je l'ai annoncé direct. Numéro maudit, saison pourrie, c'est tout.
Oui, parce que Tozan, premier match, but. On s'est dit, ah, allez, c'est bon, on a trouvé un successeur à Moshi. Et c'est complicado, hein.
Ouais, encore, les buts qu'il met, c'est juste des... Enfin, c'est des buts
de il faut les mettre.
Mais...
Ouais, mais on dit Mbemba, s'il met des buts de raccro, c'est Bambi Nzaghi. Faut aussi être honnête.
Mbemba, il a réussi à le faire sur 6 matchs, tu vois. Tozin.
Ouais, c'est
mais tu sais qu'en plus, il est déjà. Enfin, Tozin, il a déjà 728 minutes au compteur. Mbemba, il est seulement à 416 pour 6 buts, tu vois. Genre.
Ouais.
C'est compliqué.
J'ai embouteillage au poste de 9. Là.
Ah, mais Dieng, il a 448 minutes, donc il a quand même moins joué que Tozin. Donc, c'est compliqué pour eux.
Surtout que enfin, dernièrement, Dieng a réussi à être décisif le match contre Reims. Alors,
ouais.
Donc, je pense que Dieng est troisième dans la hiérarchie, mais même déjà être troisième dans la hiérarchie derrière Kroupi, un mec de 17 piges, c'est chaud quand même.
Il n'est pas vraiment troisième, il a été deuxième longtemps, mais Kroupi revient.
Troisième, il rentre pas.
Ah, il est rentré un petit peu quand même.
Ouais, il est rentré sur les 5 derniers matchs, il est rentré combien de fois?
Il a joué 11 matchs, 5 fois titulaire, donc 6 fois. Il est rentré 6 fois.
Vous serez ravis d'apprendre qu'Adrien Garbić était titulaire ce week-end face à Lugano.
Il n'a pas marqué.
Il n'a pas marqué, Lucerne a perdu. Voilà.
C'est QLD. Ce que je veux dire.
Voilà. Lugano, t'inquiète, j'ai su les résultats.
Lugano, il n'y a pas des mecs qui allaient en cure à Lugano faire... Genre Zizou, tout ça, ils n'avaient pas en cure là-bas?
Peut-être.
Non, je confonds. Ouais, je confonds avec autre chose. Ouais, c'est pas très grave. Ça part n'importe où, cette histoire-là. Du coup, face à Lyon, on ne se pose pas la question du 11. On va tout de suite passer au pronostic, messieurs. Lucas.
Victoire de 1.
Tu veux annoncer des buteurs?
Je vois Carrie décisif parce qu'on en a parlé et je vois un but de Tosin.
La cote elle est à... Alors là, la cote elle est dingue.
En même temps,
si Bamba n'est pas titulaire puisque blessé. Ah.
C'était pas Lugano, c'était Merano ou Johnny Hallyday, ils ou aller en cure. Voilà. M'excuserai. On est pas dans le même pays, à 500 km près, c'était bon. Piro.
Non, mais les entrants marquent, voilà. Donc.
Je serai pas au moustoir, et à chaque fois que je suis pas au moustoir contre Lyon, ça finit systématiquement en victoire, donc je suis pas inquiet pour ce week-end. Après, pour le score...
La boule de cristal.
C'est ça.
Pour le score, ça va être un petit 3-1.
Ah ouais.
Ouais.
D'accord.
Non, moi je dirais 2-1 comme
but. Est-ce que t'annonces le 7ème but? Excuse-moi, Raph, est-ce que Piro t'annonce le 7ème but dans cette match?
Bah, s'il joue, oui.
Ouais.
Ce serait ouf.
Raph.
Ouais, 2-1 avec un ciseau de Marama Vairua. Donc voilà.
C'était à Gerland, ça, pour le coup.
en fait je reste sur le coup, c'est que Lyon vient de prendre une pilule 3-0 où ils étaient bien en forme, donc là ça a stoppé net leur série, ça peut être intéressant.
Ouais, c'est une série assez fragile, je trouve, quand même, parce qu'ils sont toujours un peu à l'arrache. C'est pas, ils sont pas non plus impériaux.
Le Strasbourg, ça passe au tir au but.
Ouais, non, c'est
pas ça gagne, mais je sais pas comment. Enfin, tu vois, c'est pas pour le coup eux. Pour le coup, eux, ils ont vraiment la chance qui est avec eux, tu vois.
Ouais.
Tu vois, après, se provoquent aussi, mais franchement, ils ont quand même... Comparé à toutes les équipes qui sont au même niveau, je parle de nous, Montpellier, dans tout ça, eux, ils ont une chatte mais immense par rapport
à... Non, mais laissons-les venir, là. Laissons-les venir, et puis...
Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, je sais pas, je le sens pas, ce match. Ouais, je sais pas.
Pronostic ?
Bon, après, Lorient-Lyon, ça a jamais trop réussi, hein. Au moustoir.
Ouais, mais regarde ce qu'on fait là-bas. C'est le 3-3.
Allez, un match nul frustrant.
Non, non, le match était scandaleux. Ils étaient derniers. Ils n'avaient pas pris un point depuis 6 mois. Ils n'avaient pas mené.
Ah oui, celui-là. Oui, bien sûr. Oui. Attends, c'était honteux. On avait été les premiers. Alors, ils avaient.
Alors, filé un point, ouais.
Et c'était la première fois qu'ils menaient, je crois, du championnat.
Ouais, depuis 6 mois, ouais.
Mais ça, c'est très FC Lorient, on le sait.
Et ben du coup ouais je vois bien un match nul frustrant 2-2 avec un but de Lyon qui égalise à la 89e, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, autant Brest je vois clair, net, précis. On peut pas faire deux fois contre Brest dans la saison, on peut pas.
On enregistre ce passage pour le réécouter.
Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous poser la question suivante vu qu'on est dans la voyance. Pensez-vous que le FC Lorient va se maintenir en fin de saison au vu des progrès effectués par l'équipe ? Est-ce que vous pensez que c'est fait ? Enfin, c'est fait, non, mais est-ce que c'est jouable encore ? Largement, mais...
C'est pas fait, c'est largement jouable, et je pense qu'on va le faire.
Parce que là, la course au maintien, ça concerne qui, là ? Ça concerne Clermont.
Il y a du monde, hein.
Clermont, ce week-end, au moins, on est réglé. C'est...
Bah, on si Clermont, si Clermont, ça prend pas de points, c'est fini.
Ouais, c'est fini, ouais.
L'idéal ce week-end, c'est un nul Clermont-Metz et comme les deux.
Charrette.
Montpellier va à Nice. Attendez, excusez-moi, je vais vous trouver le programme de cette journée.
Tu gagnes face à Lyon et ça fait match nul derrière. T'es sûr que t'es barragiste à minima. Parce que Metz aurait 21.
Le Havre va à Toulouse.
T'as les matchs avec toi là?
Ouais, okay. Et Nantes va à Marseille. Strasbourg reçoit Monaco. Et Montpellier va à Nice. Mais Nice, qu'il est nul en ce moment.
Ouais.
Ça peut. Si Montpellier en profite, tu vois. Fin...
Le scénario cata ce week-end, enfin cata, le scénario chiant, c'est Montpellier et Metz prennent 3 points.
Ouais, et que nous, on n'en prenne pas.
Oui, bah, quoi, bien sûr, oui, bien. Et là, c'est chiant. J'aime bien, on est dans cette partie du championnat, on commence à regarder les autres, là.
Je regarde les autres depuis la 10e journée. Hein.
Mais là, on commence à réfléchir. Si lui, il gagne et que nous, on prend un point, mais qu'eux perdent, on est bon. Ça va être tendu.
Vous la voyez quand procuration ou des fois, chez les débuts de Reims,
FC procuration.
Mais là, ouais, ce week-end, le Metz clairement, vive le match nul, quoi. À votre avis, elle va se jouer quand ce maintien ? Si le FC Lorient doit se maintenir, ce sera à quelle journée ?
Il faut avant la dernière quand même. Parce que la dernière, le Lorient-Clermont, avec une équipe déjà en Ligue 2 en face, où on va se faire caca dessus. Je sens le scénario catastrophe, il faut le faire avant.
Ouais, pour moi, c'est deux, trois dernières journées. Hein. Qu'on est bien, qu'on est sur une très bonne dynamique, mais...
Les deux, trois dernières années, je te rappelle, c'est Lens-Marseille.
Ouais,
et
c'est Toulouse à la maison. Toulouse à la maison.
On se maintient à Lens.
Non. Si. Avec Régis qui met Francaise dans sa poche arrière. Là.
Non, mais tu peux te maintenir à Lens tout en perdant aussi. C'est-à-dire que tu gagnes face à Toulouse, t'es toujours pas maintenu.
C'est pas lâche, là. C'est du Christophe Moreau. Non. Non. Tu dois gagner, tu dois te maintenir en gagnant.
C'est du Bakayoko.
Non, là c'est Lorient, PSG. Je rappelle donc les 10 derniers matchs, pour, au cas où vous les avez pas en tête. Donc on reçoit Lyon, on va à Monaco, on reçoit Brest, on va à Montpellier, on reçoit le PSG, on va à Nice, on reçoit Toulouse. Je vois bien le maintien à ce moment-là. On va à Lens, ouais. On va à Marseille. Les deux déplacements, ils font mal l'un après l'autre, là, en mai. Et le 18 mai, festival, on termine contre Clermont. Ce sera soit ouais, Toulouse ou Clermont, quoi.
Ouais. Ou mathématiquement avant. Mais bon.
Oui, ou après, super. Alors là, ils sont très contents d'écouter notre podcast, les mecs. Là,
mais non, mais tu peux te maintenir par les maths à Lens ou à Marseille sans forcément gagner.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je pense bon, eh ben, écoutez, ce sera un très bon week-end de foot à regarder. Hein, donc, le Metz Clermont de dimanche, il va être très, très intéressant. Si Clermont, ça perd, Clermont, c'est fini.
Ouais.
Bon, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour les...
Tu penses ?
Oh non.
Eh bien. Mais certes, je vois pas Clermont du jour au lendemain se remettre à bien jouer et changer complètement de dynamique, mais on peut pas dire que c'est fini aussitôt. Enfin, il reste 9 journées. Enfin, je sais pas. Ça me paraît trop tôt.
Leur calendrier.
Il sera à 17 points.
Leur calendrier est ouf.
Il serait à 17 points. Le Havre est déjà à 24. Ok, tu fais une série de 2 victoires, tu te replaces, mais...
Ah bon. Ouais.
C'est vrai aussi. Ouais. Bon, assez parlé des autres. Revenons sur le FC Lorient. Pierrot, je te propose de passer aux questions de nos auditeurs.
Ça, tu me prends de court.
Je te prends de court, excuse-moi.
Ils ont coup, moins 24, clairement.
Voilà, meublons. Alors, clairement...
Non, mais j'ai des... C'est bon, j'ai...
Vous vous souvenez quand ils disaient qu'on était nuls à chier?
On le dit à chaque épisode.
Il y a eu beaucoup de questions.
Je rêve d'un tifo, d'une banderole Godalon, je sais pas quoi, c'est sur la dernière. Là.
Alors nous, on est nuls.
Vu qu'on a côte. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, excuse-moi, tiens, pardon, en parlant de banderole et de tifo, excuse-moi, je t'interromps, Pierre. Le parkage lorientais à Rennes, c'était quelque chose.
Ah ouais, c'était beau.
Hein. Depuis la télé, t'entendais que. C'est pas compliqué. Tu n'entendais que. C'était incroyable. Donc, respect à tous les supporters qui ont fait le court déplacement, mais qui ont eu le mérite de le faire. Et ouais, c'était incroyable.
Timo, sur le tifo aussi, Nantais, face à Nantes. Qui était ouais, vraiment magnifique.
C'est une vidéo.
À Rennes, c'est rare de voir le parkage du haut quand on y va.
Oui.
D'habitude, chaque fois que j'ai fait, c'était tout. Il n'y avait jamais le parkage du haut. Et là. Mais même globalement cette année, même en étant dans le creux de la vague, il y a une hype autour de l'équipe, autour du club. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps qu'il y a autant d'engouement.
Je crois que le COP Sud est encore à guichet fermé hein, contre Lyon ce week-end.
Ouais, bon, ils sont quasi à tous les matchs. Hein.
Ouais, ça sera à guichet fermé de toute façon, je pense.
Et ce que disait Lucas, ouais, le tifo qui a été réalisé avant le match, enfin pour le match de Nantes là, avec la vidéo sur Lorient avant-guerre, enfin, toute l'histoire de Lorient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale quoi. Non, c'est allez voir la vidéo sur YouTube, elle est très sympa sur les comptes du COP Sud et enfin du COP Sud, oui, des Merlus Ultra et vraiment incroyable. Ça participe aussi, je suppose, à cette dynamique de les gens veulent venir voir le match en Sud, profiter de l'ambiance, etc.
Du coup, je reprends les questions. On a eu pas mal de questions sur que devient Benjamin Mendy.
Excellente question.
Eh bien, il se...
Il est loin du club, et depuis qu'il est loin du club, le club va mieux.
Disons qu'il est blessé, hein, ça c'est la première chose. Il récupère, et ça arrange tout le monde. Je suppose qu'il récupère dans son coin et qu'il soit tranquille et que le groupe se construise dans son autre coin. On n'a pas plus d'infos que ça, hein, d'ailleurs, mais
non,
ce qu'on comprend, c'est ça. Hein.
Ceci étant,
tout le monde est content.
Ceci voilà. étant, depuis qu'il n'est plus là, les résultats vont. Donc,
Ouais, je ne suis pas sûr. Alors.
Ah,
on a le droit de dire que c'est la faute de Benjamin Mendy. Si on n'avait pas les résultats, faut pas non.
Je dis pas que c'est la faute de Benjamin Mendy. Mais dans le groupe, tu as quand même dégagé deux, je dis deux têtes de Turc, hein, clairement. Fèvre et Mendy, depuis qu'ils sont plus là, on voit que le groupe s'est ressoudé.
Romain Fèvre en première ligue, c'est incroyable. Vous avez vu les stats? Ah là, ils en reviennent pas. Là. Non, ils jouent pas. Voilà, ils jouent très peu, en tout cas.
Donc c'est sûrement un heureux hasard, mais
non, bah évidemment, ça t'enlève. Évidemment que ça participe à quelque chose, mais c'est pas la clé du truc, je pense pas. Je refuse de croire à ça.
Je pense que vous taisez un autre nom hein, qui du coup est même plus dans les groupes, hein, Jean-Victor Makengo.
Ouais, mais nous on s'en branle.
Ah, je le taisais pas, j'avais oublié. Alors là, pour le coup, c'est sans méchanceté de ma part, j'avais oublié.
Lui, il est nul.
Oui, non, alors pour le coup, Raph, tu vois, je le taisais pas, c'est juste que j'avais même presque oublié son.
Il
est même plus dans le groupe.
C'est quand même un énorme glodin. Enfin, on est sur une descente aux enfers. Hein. C'est un joueur qui est arrivé pour. Avec autant de hype autour de lui, avec un rôle tout trouvé, avec du temps de jeu, et ça l'a pas fait, quoi. Puis il y a eu quand même des propos qu'on filtrait. C'est compliqué. Hein.
Oui, il accusait Régis de vouloir détruire sa carrière. C'est ça qui est.
Exactement, avec des termes plus sympas. Donc, ouais, non, c'est fou. Hein. Il n'y a plus rien, là. Il n'est même plus dans les.
Ouais, je pense que t'as bon cœur encore devant lui. Hein. Même si, je sais même pas si bon cœur était dans le groupe, tiens, ce week-end, j'ai même pas fait attention. Bon, c'est pas très important, mais ouais, Jean-Victor Makengo,
je pense que
ça va être encore quelques millions qui vont être difficiles à rentabiliser.
Ah ouais, là c'est compliqué.
Je pense que connaissant Régis Lebris, il préfère prendre un quatrième gardien plutôt que Jean-Victor Makengo dans un but.
Tu penses?
C'est possible.
Il l'a déjà fait avec Garbage, donc pourquoi pas.
Ou la réserve.
Bonke n'était pas non plus dans le groupe. Il y avait Boanani dans le groupe, voilà, le prépayant mystère. Hein, on comprend, je pense qu'on.
Non, en fait, c'est compliqué parce que du coup, il est. Tu peux pas le faire jouer trop dans ce système, en fait. Plus difficile.
Mais tu as payé un million pour le faire venir.
C'est débile de l'avoir payé un million pour qu'il vienne, tu vois.
Tu sais pas.
Après, sur certaines situations, dans certains scénarios, il peut apporter. On en avait parlé. Ouais,
moi, franchement, je le fais rentrer quand t'es dominant et que tu veux en mettre un, etc. Ce qui a pas été le cas dernièrement, quoi. Tu vois. Enfin.
J'aurais plutôt fait rentrer contre Nantes.
Exactement.
Ouais, par exemple. Avec voilà.
Ça. Mais Nantes. Alors, on en a pas trop parlé du match de Nantes. Mais moi, j'ai trouvé le coaching quand même un peu à côté, quoi. C'est-à-dire que.
Outcoaché par Jocelyn Gourvennec, c'est ce que tu veux nous dire?
Tout à fait. Il s'est fait le briser par Gourvennec. Et du coup,
il s'est fait Laszlo boloniser par Gourvennec.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, je l'ai pas trouvé. Enfin, on est resté dans le même système. On n'a pas forcément tenté autre chose. Et je trouve que bah, tu prends ce genre de joueur pour aller déverrouiller un bloc bas, en fait. Le gars, il est technique, petit périmètre, etc. Et ouais, c'est dommage. Je le voyais plus dans ce registre.
C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur le match de Nantes, mais c'est la première fois que ça m'arrive depuis très longtemps. Je me suis endormi devant ce... Mais littéralement. Je me suis endormi. C'était
très pauvre.
Oh là là. C'était vraiment pas bon, quoi. Donc, on n'a pas envie de perdre des auditeurs, donc on ne va pas en parler parce que vous allez couper. Mais ouais, c'était pas bon, quoi. Bon, ça ne peut pas être parfait tout le temps non plus. La série du FC Lorient est quand même plutôt bonne. Bon, même très bonne. Franchement,
on est la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs.
Le soir du Fairy Time, on aurait tous signé pour que ça se passe comme ça. Hein.
Bah, je pense que tu nous enregistres. Moi, je suis le premier à dire que j'y crois plus et qu'on va descendre.
Ouais, c'est après l'enchaînement Sochaux et Le Havre.
Ouais.
Oui, toi,
la bicyclette de Ayou, j'ai dit c'est fini. Parce que je pense. On n'est pas sauvé encore. Mais je m'attendais pas à ce retour de. Retour en forme.
Non,
hein,
mais face au Havre. Non, alors face au Havre, moi je sentais et on se l'était dit que l'équipe tournait un peu mieux déjà. Mais
tu te fais assommer par.
Il y avait quand même des petites prémices de bonnes choses contre le Havre.
Ouais, mais le match de Sochaux, il est calamiteux.
Après, le match de Sochaux, c'était la moitié de l'équipe, c'était de la N2. Donc,
oui, d'accord, mais bon. Tu as envie de te remettre à l'endroit après une
défaite. Alors attends, parce que moi j'ai utilisé cet argument pour défendre. J'ai utilisé cet argument pour défendre l'équipe après le match et tu m'as dit ça change rien en face.
Ouais,
N3,
mais
c'est un scandale.
Ils utilisent grave les arguments à
c'est ça.
Ah mais c'est un escroc au Pierrot.
On a, Lucas Vergès, on a Pierre Dupont-Moretti. C'est une catastrophe.
Pierrot Dupont-Moretti.
Bref, continuons avec les questions de nos auditeurs.
Question de Benjamin Guillaume. Pensez-vous que Formose Mendy n'a plus sa place dans le 11 type de Lebris?
Bah, il y a 4 séries, donc il peut plus jouer piston droit alors que c'est pas son poste. Déjà, c'est compliqué.
Enfin, ah, non. Alors ça, je remets l'église au centre du village. Tout le monde me parle de piston droit. Il a joué plus central que piston droit cette saison. Je vois pas où vous allez chercher tous cette histoire de « il joue piston droit, machin, tout ça ».
Bah attends, il a joué...
Non, il a joué plus central. J'ai vérifié, j'ai regardé toutes les stats, toutes les minutes, tous les machins, il a joué plus central droit que piston droit.
Oui, d'accord, ok. Mais il a quand même joué beaucoup sur le couloir droit, quoi.
Oui, beaucoup. Mais rien n'empêche d'être en concurrence avec Laporte, c'est plutôt de ça qu'on parle, plutôt que d'être
bien
en
sûr.
Concurrence avec Katsé.
Ouais, mais enfin, son problème, ça a été de concéder quelques pénaltys.
Un pénalty par
match. Voilà, et de pas forcément être très sécurisant.
Adjaye, il fait pas un mauvais boulot.
Non, mais tant que, en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois. On avait la même discussion, le même débat. En gros, il y aura de la rotation, mais tant que tu fais pas de conneries et de grosses erreurs, tu auras toujours ta chance. Donc Laporte, il est revenu alors qu'il a clairement fait un ou deux matchs calamiteux. Mais Formo, j'ai l'impression qu'il est dans la hiérarchie. Il est quand même, il part de plus loin, quoi. Ouais.
Mais je pense qu'il y a un potentiel pour prendre la place de Isaac Touré, quand même.
Ouais, je sais pas. Enfin...
Ah, cette saison, je sais pas, mais en tout cas.
Vous vous rendez compte qu'on a une défense centrale. Excuse-moi, Lucas, je t'interromps, vas-y, continue.
Non, je dis c'est pas raté, mais vas-y.
Non, on a une défense centrale qui doit plafonner à 2 mètres de moyenne. Et on ne met pas un but. Pardon, mettre un but. mais où vais-je ? On ne cadre pas une tête sur coup de pied arrêté.
Ouais, c'est toujours
c'est
au-dessus.
Incroyable. C'est incroyable.
Par contre, elle vaut assez cher, notre défense centrale, parce qu'au prix où on a acheté Formose, au prix où on a acheté Touré. Et au prix où Adjaye, je sais plus que 3-4, quoi. Ouais. C'est apaisant.
Ouais.
C'est pas beaucoup plus, Adjaye.
J'avais ça en tête, 4. Mais peut-être que c'est plus.
J'avais en tête un truc à deux chiffres avant le million, mais peut-être que
non.
C'est
plus... Ah ouais ?
Non. Adjaye, non.
4-5 grands matchs,
Adjaye, je crois. Adjaye, c'est 3-4, je sais plus. C'est à Hammerby, c'est ça ?
Ouais.
Mais avant que tu poses la prochaine question, je vais regarder.
Je fais de même.
Eh ben, question de Romain Bay, Katsiris, est-il vraiment supérieur à Kaloulou ? Peut se faire décider demi-finaliste de la CAN.
Bah ouais. Bah, ça dépend si on compare la saison dernière de Kaloulou ou cette saison.
Non, le
mais
début,
en tout cas, il met beaucoup plus de personnes.
Le début de saison de la saison dernière, parce qu'après c'était beaucoup plus difficile. Mais le tout début de saison de Kaloulou, il est extraordinaire.
Mais en tout cas, on va comparer sur cette saison, plutôt c'est plus. C'est un peu plus logique. Katsiris met beaucoup plus de personnalité dans tout ce qu'il fait, et c'est ça qu'on ressort à chaque fois. C'est que finalement, Kaloulou n'était plus du tout un. Il n'avait plus du tout ce rôle de piston parce qu'il n'aimait. Il n'avait plus ses courses un peu incisives qu'on demande à un piston, même défensivement c'était compliqué. Donc là, même si Katsiris ne fait pas tout bien, finalement, comme on l'a dit, il met beaucoup d'envie, il donne une âme à cette équipe et c'est hyper intéressant.
Et puis, c'est ça, c'est surtout dans la dépense physique, quoi. Il met de l'impact, il est à fond, c'est un chien sur tous les ballons. Je pense qu'il se complète en fait et qu'on verra souvent du 70 minutes ou 65 minutes pour Katsiris et puis Kaloulou en. Comment ils disent au rugby maintenant les finisseurs. Je pense qu'on verra plutôt ça.
Question.
Des nouvelles, pardon, sur le tarif de Adjaye là. Je vois que ça se
Moi j'ai 4-5 millions, bonus compris.
J'ai 7 partout sur tous les.
Moi, Transfermarket me parle d'un prêt donc visiblement ils sont pas à jour.
Je vous jure. Parce que c'est un prêt avec option d'achat.
Prépayé. Ah, c'est
avec
ça.
Obligation d'achat s'il maintient.
Ah là, ok, d'accord. Pardon.
Question de Thibaut.
C'est pas con, hein, en soi.
De quoi ?
Ah, de faire ce genre de deal avec option sur le maintien. Bref.
Oui.
Prochaine question.
Oui, c'est toujours mieux qu'acheter Jean-Victor Makengo, 12 millions à l'Udinese, on est d'accord.
Voilà. Tout à fait.
Quelle est votre note du mercato hivernal ?
Ça bouge
on
pas.
L'a déjà donné.
En fait, je pense que la question, c'est est-ce qu'elle a changé ?
Bah...
Bon, pour moi, elle a pas
oui,
changé.
Oui, positivement. Hein. Ah, si, quand même.
Elle a peut-être pris un point de plus, on va dire.
Excuse-moi, tu récupères Bamba, tu te dis pas qu'il va te mettre 6 buts en 6 matchs, quoi.
Non, mais c'est pas forcément les critères.
Et rappelle-toi, on avait enlevé des points à notre note globale, notamment parce qu'on n'avait pas dégraissé.
Bah oui, mais bah, ça bouge pas, ça.
Ça bouge pas. Il y a juste Garbage qui est parti depuis.
Voilà, c'est.
Et en plus, on a fait partir un attaquant, là, je sais plus son nom, là, Projet Bornemousse.
oui.
Ça va être Genève, là. Le mec, il a même pas été enregistré, le mec, en fait, il joue pas.
C'est vrai? Oh, le pauvre. Non, c'est dur, ça. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Il y a un numéro 9 qui a joué quelques matchs.
Si, là, le mec qui était nul. Là.
Mais non!
Mais si, il faut dire ce qu'il est.
J'allais dire Haribou, mais c'est pas lui. Haribou, c'est un petit jeune. C'est
Bassirou Ndiaye.
Voilà, Bassirou Ndiaye. Donc, il est parti à Genève et il n'a pas été enregistré?
Ouais, en fait, ils avaient une période pour enregistrer les joueurs. Ils ont recruté 3 joueurs, ils ont oublié d'enregistrer les 3. Du coup, bah, les 3 peuvent pas jouer.
Mais non.
Si.
Il est revenu à Lorient ou il est toujours là-bas?
Non, il est toujours là-bas parce qu'ils ont demandé à faire des dérogations, machin et tout, mais ça prend du temps et pour l'instant, bah.
Oh là là,
l'horreur.
Par contre, celui qui sent le projet Bournemouth à plein nez, c'est Mobamba.
Oui.
Bah oui.
Bah, ça fait le bout d'une question d'ailleurs.
Ah, vas-y.
Bah non, mais vas-y donc.
Ah oui, non, mais. Il a pris. Enfin.
J'ai peur que s'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison, j'ai bien peur qu'on le revoie pas.
Souvenez-vous, Vincent Aboubakar. Hein.
Je le vois pas au mois d'août, en fait.
C'est du one and done. Hein. J'espère pas, mais.
Il y a un monde où, ouais, s'il claque on a plus de 10 buts, il y a un monde.
Ah
où...
bah, il tombe mieux 4 ou 5 de plus là, il a une cote de dingue, hein, putain.
Moi, ouais, je pense que là, déjà, il a une cote de dingue.
Ouais, déjà, forcément.
Je pense que déjà là, à date d'aujourd'hui, tu doubles ton investissement d'il y a un mois et demi.
On dit ça en rigolant, mais n'oublions pas que le Lorient a quand même besoin d'un peu d'argent pour vivre. N'oublions pas qu'il y a 2-3 transferts qui va falloir récupérer. Hein. Je pense à Garvey, je pense à Makengo, on en a parlé aujourd'hui. Bon. Voilà.
Il y avait une question d'ailleurs sur. Je sais plus qui c'est qui la posait, mais il y avait une question sur les départs de cet été, probablement, de Talbi et Mvogo. Et qui c'est qu'on voulait Mvogo. Voir derrière
Mvogo, il partirait cet été?
Il lui reste un an de contrat derrière.
Il reste un an, ouais.
Bon, moi, je vois bien une prolongation. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est moche ça, au jour d'aujourd'hui.
À ce jour.
Je le vois bien prolongé, machin, partir où? Je trouve qu'il n'a pas pris une valeur incroyable aux yeux de. Tu vois?
Moi, je prolonge, après, s'il ne souhaite pas prolonger.
Pardon, je me suis mal exprimé. C'est. Quel club d'un niveau supérieur ira le chercher?
Je pense qu'il part des clubs. Il est arrivé en tant que numéro 2 du PSV. Il est clairement venu à Lorient pour jouer la Coupe du Monde. Malheureusement, il s'est blessé. Il a encore redit cet été que justement, il verrait ce qu'il allait faire. Ouais, mais ça se voit, c'est un mec qui a beaucoup d'ambition. Et s'il a une petite opportunité de jouer un peu plus haut, je pense que
il a 29 piges, donc c'est l'âge.
C'est vrai,
charnière. C'est son prime. Ouais.
C'est vrai aussi.
Ouais, après les gardiens, c'est compliqué parce que c'est une valse. Hein, tout simplement,
ouais, c'est
un gardien qui part dans un club.
Tu nous fais tous les poncifs du foot aujourd'hui, Pierrot? Ça se passe comment? Ok, d'accord. J'ai repéré une tendance depuis tout à l'heure.
T'as capté mon mood du jour.
C'est ça. T'as oublié de nous dire sur la série pour le maintien qu'il fallait prendre les matchs les uns après les autres, quand même.
Ouais,
mais j'ai dit 10 finales.
C'est vrai. Oui, donc Talbi, bon, il va falloir qu'il y aille. Hein. Il est quand même amené à jouer au-dessus, même si cette saison n'est pas sa meilleure.
Il revient bien.
Bah là, il revient.
Non, mais il revenait bien.
Il revenait bien, parce que là, oui, il revient en soins, là, surtout. Quoi. Donc,
non, mais en vrai.
Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, la clavicule au mois de janvier?
Peut-être un petit peu. Peut-être
clavicule petit peu. En janvier, t'es prêt pour le tour. Ce qu'il faut pas, c'est la clavicule au printemps, là. Parce que t'es mort pour les classiques, t'es mort pour les. T'as plus qu'à taper la Vuelta et personne ne la veut.
Bah là, non, non. Il pourra même pas signer la prolongation avec son...
Non, non, mais oui, est-ce que tu... je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, il se pète là et il reste un an de plus, quoi. Ou au moins 6 mois de plus. Je sais pas. D'autres départs que vous voyez potentiellement cet été?
Bah, ça dépend de notre sœur aussi. Hein. Parce que là, on parle comme si on était maintenu, mais...
Ah oui, sur
ah là là. Lucas, l'oiseau de mauvais augure.
Qu'on va amener Thiemo Bakayoko en Ligue 2.
Moi, je vois sur le fait qu'il faut dégraisser déjà à balle, en fait.
Ouais. Oui, bien sûr.
Parce que je crois qu'il n'y a que Boigard qui est en fin de contrat.
Ouais.
Donc, en fait, tu te retrouves, en fait, avec le même effectif qui revient.
Ouais, et puis tu as beaucoup de retours de prêt hein, quand on voit Soumano.
Fagis.
Après, tu vas perdre Lusa. Parce que c'est qu'un prêt sans option.
Ouais.
Vuka revient, non, en plus.
Wanana.
Vuka, t'as aussi, comment il s'appelle
Sila. Sila revient.
Qui fait un
très
de partout.
Sirou revient.
Ouais. Notre Ellie qui venait de Guingamp. J'ai pas vu son nom.
Oh, ah oui.
Kathleen.
Ouais.
C'est horrible. C'est horrible, Lucas. C'est...
Ouais, non, mais il va y avoir du monde à revenir aussi, il va falloir dégraisser. On continue, Pierrot ?
Mais ouais.
C'est un petit peu embourbé dans cette question.
Et attendez, Igor Silva.
J'avais oublié lui aussi, tellement qu'il est nul.
Non,
le pauvre. Mais si.
Oui, mais faut pas dire des choses comme ça.
Bon, après, il est blessé.
Voilà, on tire pas sans l'ambulance.
Il est en vacances, enfin, il est revenu au Brésil, qu'il y reste, qu'il trouve un
peu il est au Brésil,
en juillet.
Il l'a traqué sur radar, fly radar, je sais pas quoi.
qui fasse le tour des agences d'intérim du Brésil pour trouver un club. Et bon courage. Hein. Merci pour ces moments. Merci pour le high kick contre Nice. On s'en souviendra toute notre vie. Et malheureusement, c'est peut-être la seule action de Lorient qu'on se souviendra de toi, Igor.
Et sa transversale au premier match contre Saint-Etienne.
C'est vrai.
Mais ouais.
Pour le Goff.
Et dernière question d'Arthur. Le FCL peut-il finir à une meilleure place que l'an dernier? Ce serait.
Oh. Mais c'est
ça,
vrai.
C'est une bonne c'est question. Pas...
Ça, c'est bien. Ça, c'est
bah, une j'ai gardé la meilleure pour la fin.
Ah, ça, c'est une bonne question.
Attends, redis qui a posé cette question.
Attends, c'est Arthur HZB sur Insta.
Eh ben, merci, Arthur. C'est une très bonne question.
Ça voudrait dire. Rattraper Reims qui est 9e avec. Ah, parce que donc le FC Lorient finit 10e l'an dernier. Hein. Ça veut dire 34 points, on est qu'à 9 points. Et on va jouer tous les. Et techniquement, on joue que des mecs devant nous là.
Ouais, c'est compliqué quand même. 9 points à rattraper avec le calendrier. Faudrait que Reims se casse la gueule aussi. C'est.
En vrai, ça me ferait chier. Parce que ça voudrait dire que Régis a eu raison au début de faire son coup d'état là. Il finit de 9e, il peut arriver au mois de mai. Il fait ouais, je vous avais dit. Voilà, j'ai on a pas progressé.
Surtout, rappelle-toi de ce qu'on avait dit lors de la preview. Régis Lebris doit mieux faire cette saison car il avait plein pouvoir.
Bah, c'est vrai.
Le budget.
Bien sûr que c'est vrai. Mais imagine, on finit mieux que 10e. Mais c'est ça, vu la saison qu'on fait, mais c'est. Non. J'y crois pas.
On aura un tavarne d'or à donner à l'entraîneur.
Mais après, ce championnat est tellement resserré. Et tu vois, même Reims, c'est pas brillant comme l'an dernier. Il y a un peu de bordel. T'as Will Steele qui va partir, tout le monde le sait. Abdelhamid, il part aussi.
La couille qu'ils ont fait, c'est de vendre Matusiwa à Rennes de la dernière heure du mercato.
Et voilà. Donc, ouais. Reims, bon, voilà. Rennes.
Oh, tu peux faire 10e, mais 9e,
Rennes,
ils
sont repris, machin. T'as qui? T'as Toulouse. Toulouse,
ils enchaînent.
Ils enchaînent, ouais, mais est-ce que tu sens une équipe solide qui va...
Déjà, voilà, tu les joues.
Lyon, voilà, on a parlé.
Ah, mais à contrario, Toulouse, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué la Ligue Europa. Ils ont quand même un calendrier chargé. Il ne faut pas l'oublier.
Mais tu ne peux même pas éliminer Clermont totalement, tu vois. Si tu es raisonnable, tu ne peux pas les éliminer. C'est tellement resserré, ça peut... bien malin. Qui pourra prévoir le classement?
En fait, c'est la réflexion que je faisais la semaine dernière après avoir perdu Comporte. On a fait la pire opération, jouer tout le monde avait des points devant nous. Et tu vois, la semaine d'après, on passe devant toutes les équipes.
Et on fait la meilleure.
On se disait, ah, vas-y, on a raté le coup. Donc, en fait, c'est...
Ouais, ouais, ça va dans tous les sens. Évitons de perdre ce week-end, déjà.
Ouais, c'est ça, en fait. Faut pas perdre.
C'était tout pour les questions.
Ah oui, c'était la dernière soirée, t'avais dit que t'avais gardé. Le meilleur pour la fin. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Pas de quiz cette semaine, j'ai pas eu le temps. On est en plein conseil de classe, donc j'avais évidemment d'autres chats à fouetter, si vous me
permettez cette top expression.
Exactement, si vous me permettez cette top expression. Merci à tous de nous avoir suivis, on n'oublie pas. On va se... Alors attendez, petites échéances là, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode de la taverne. D'ici fin de saison, il y aura évidemment le débrief de la saison, mais on est encore loin. Vu qu'on parle de la fin de saison, j'avais ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler en ce moment? Pas grand-chose. Hein. Vous avez été très 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 nombreux. Écoutez l'interview de Fabien Audard.
Beaucoup de retours.
Et si vous ne l'avez pas fait, allez-y, courez-y. Franchement, c'est pépite. C'est très, très agréable à écouter. Je l'ai réécouté après, tranquillou. Et c'est vraiment agréable. C'est vraiment un bon moment qu'on passe. Donc voilà, allez-y. Et merci pour tous les retours très positifs que nous avons reçus. Sauf Lionel Capone qui nous a insulté par DM. Non, c'est faux.
On essaie de voir avec notre avocat comment faire pour répondre.
Évidemment que c'est faux. Nos avocats, Maître Gervais, François Vergès et Pierre Dupont-Moretti.
Lucas Vergès et Pierrot Dupont-Moretti.
Merci à tous. Donc, abonnez-vous hein, sur toutes les plateformes audio là où vous nous écoutez, ça nous aide. Abonnez-vous sur Twitter et Instagram également, ça nous aide beaucoup dans notre quête d'un sponsor qui nous permettrait de réaliser quelques projets. D'ailleurs, on le répète encore une fois, nous sommes à la recherche d'un sponsor. Donc, si vous ou de vos connaissances ou des gens dans votre entourage veulent aider 4 connards et demi à parler de foot, n'hésitez pas. Oui, mais Kams, le pauvre, son emploi du temps ne lui permet pas d'être avec nous si souvent cette saison. N'hésitez pas, ça nous aide. On a plein de projets dans les tiroirs qu'on est en train de développer, qui devraient vous faire plaisir. Mais pour ça, on a besoin d'un peu de sous. Donc voilà, si vous avez une idée de sponsor, nos DM sont
ouverts,
je crois. Mm-hmm. Dans tous les cas, n'hésitez pas, ça nous aide. Voilà, c'était un petit moment promo. Merci à tous d'avoir suivi. Raph, Pierrot, Lucas, merci beaucoup.
Ouais, merci.
Et puis on se revoit d'ici quelques semaines, quoi. Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Ciao.